Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Les opposants à un cinquième mandat du président Bouteflika appellent à une journée de grève générale alors que le pouvoir tente d'assécher la mobilisation en allongeant les vacances des étudiants. Reportage avec notre correspondante Leïla Berhatou dans un instant. Nous irons aussi au Venezuela où une grande manifestation a encore eu lieu hier avec deux cortèges, les opposants d'un côté et les partisans de Nicolas Maduro de l'autre. En Syrie, reportage notre envoyé spécial à Baghouz, Aurélien Colli, dans le dernier bastion djihadiste. Et puis en France, très peu de personnes mobilisées dans les rues pour l'acte 17 des Gilets jaunes hier, mais parmi les manifestants, les femmes étaient largement présentes. Des assistantes maternelles et des écologistes aussi, reportage à Paris dans ce journal. Une grande manifestation hier encore au Venezuela. D'un côté, les partisans de l'opposant de Juan Guaido, président autoproclamé, et de l'autre, les soutiens de Nicolas Maduro, le président élu. Deux manifestations alors que la coupure d'électricité géante commencée jeudi après-midi continue d'affecter la quasi-totalité du territoire. Un nouveau point de discorde entre les deux camps irréconciliables qui se rejettent la responsabilité de cette panne. Et pour la première fois depuis le 23 janvier dernier, la journée d'hier a failli dégénérer et sombrer dans la violence à Caracas. Reportage sur place de notre correspondant au Venezuela, Benjamin Delisle.
Après presque 40 heures sans électricité, les partisans de l'opposition ne sont pas aussi nombreux qu'espérés sur la place Altamira de Caracas. Raphaël, 63 ans, est déçu mais garde espoir.
Le problème, c'est que les coupures de courant ne nous aident pas car on n'a plus accès aux réseaux sociaux ni au métro et les points de ralliement ont été annoncés seulement hier.
Sur l'avenue Libertador, ce sont les chavistes qui se réunissent pour une marche anti-impérialiste. Ana Maria Morales réfute toute responsabilité du gouvernement dans la panne de courant.
Nous pensons que c'est un sabotage car qu'est-ce que Maduro gagnerait à couper le courant, qu'on se mette à le détester, c'est tout ce qu'il pourrait obtenir, donc ça n'a pas de sens. C'est sûr que c'est un sabotage.
Un argument qui ne convainc personne sur l'avenue Victoria où la foule d'opposants a obligé la police à reculer. Un cordon d'hommes en armes bloque plusieurs points d'accès et une partie de l'avenue. Les manifestants tentent de les rallier sans succès. Mais Juan Guaido parvient tout de même à contourner les barrages avec une foule d'opposants, notamment Valentina.
Trop c'est trop, on veut une intervention, on n'en peut plus. Ce régime a montré qu'il ne partira pas, on a beau supplier, demander de mille manières, rien n'y fait. Il ne reste que la force.
La police ayant confisqué la scène, c'est au mégaphone sur le toit de son véhicule que Juan Guaido s'exprime devant une foule en délire qui ne l'entend presque pas. Mais qu'importe, selon les manifestants, pour eux l'important est d'avoir pu se réunir malgré tout.
Alors que dans le même temps, 15 patients sont morts faute de dialyse indispensable à leur survie au Venezuela à cause de la panne géante d'électricité, selon une ONG du Venezuela. En Algérie, le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé hier que les vacances universitaires commenceraient aujourd'hui et qu'elles allaient durer un mois. Des vacances supplémentaires donc pour les étudiants qui sont très largement mobilisés contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. À Alger, Leïla Berhatou.
La nouvelle tombe en début d'après-midi. Le ministère de l'Enseignement supérieur annonce que les vacances universitaires commenceront dès ce dimanche et ne dureront non pas deux, mais quatre semaines. Hamza, 23 ans, est étudiant en anglais.
Il est clairement une décision politique, elle est clairement une décision stupide qui va pas vraiment toucher la volonté de ces jeunes, de ces étudiants à manifester. Au contraire, l'effet de cette décision, elle va être vraiment le contraire. Elle va vraiment pousser ces gens à manifester.
Au fur et à mesure de l'après-midi, des administrations demandent aux étudiants de quitter les cités universitaires puisque les vacances commencent. C'est le cas de Shaima, 22 ans.
Demain, je ne sais pas où je vais passer la nuit, mais je vais rester ici. Je vais rester ici, je vais me débrouiller et je vais continuer. Je ne vais pas m'arrêter parce que c'est un devoir pour mon pays. On ne veut pas cinquième mandat, on ne veut pas le gouvernement. On veut le changement.
En quelques heures, l'indignation monte sur les réseaux sociaux et les étudiants organisent une série de rassemblements pour la journée de dimanche. Dans la soirée, retournement de situation. Si les vacances débutent bien, les autorités annoncent que les CTU, elles, resteront ouvertes pour les deux prochaines semaines.
Leïla Berhatou. Une soixantaine de médecins signent une tribune publiée ce matin dans le journal du dimanche. Parmi eux, l'ancien ministre Bernard Kouchner et l'urgentiste Patrick Peloux. Ils réclament la protection immédiate des médecins au Soudan alors que le pays connaît une vague de manifestations depuis la décision de Khartoum de multiplier par 3 le prix du pain. Le 17 janvier, le docteur Babiker a été froidement abattu alors alors qu'il soignait des manifestants blessés et 28 médecins sont actuellement en prison, selon les mots de ce texte. Selon l'ONG Human Rights Watch, 51 personnes ont été tuées depuis le début de la contestation en décembre dernier. En Syrie, les forces démocratiques syriennes encerclent toujours les derniers combattants de Daesh dans le village de Baghouz. Leur offensive a été ralentie toute la semaine par la présence de civils à l'intérieur de cette dernière enclave. 7000 personnes, essentiellement des civils, en sont sorties cette semaine. Notre envoyé spécial Aurélien Colli a pu se rendre sur place hier.
Une route parsemée de cratères qui témoigne des frappes aériennes, des carcasses de véhicules brûlés, des maisons éventrées, des murs criblés de balles. Le paysage de Baghouz n'est plus que destruction et désolation. La situation ici est encore confuse, mais on a gagné, résume le commandant Youssef, perché sur le toit d'une habitation qui a résisté, dans l'ouest de la ville, repris à Daesh. D'après les civils qui sont partis, ils sont encore à peu près 2000 combattants à l'intérieur, explique ce chef de brigade, en observant l'enclave des djihadistes à quelques centaines de mètres. Ils utilisent des tunnels pour se cacher le jour et ils bougent pendant la nuit, mais ils sont affamés. Quand ils lancent des opérations, c'est juste pour essayer de récupérer de la nourriture, poursuit l'homme d'une cinquantaine d'années, avant de soulever le problème des civils, plusieurs milliers encore à l'intérieur selon lui, qui n'a pas beaucoup de compassion pour les familles de djihadistes. On les a prévenus, on leur a demandé de sortir, s'ils refusent, on n'aura pas le choix pour en terminer avec Daesh, explique le commandant. Plus inquiet en revanche pour d'autres civils, ceux qui servent de boucliers aux djihadistes. Entre eux et nous, ils ont tout miné pour nous empêcher d'aller les récupérer, explique-t-il. Cela représente à peine 1 km². On pourrait en finir en une heure, mais on a les mains liées par ces femmes et ces enfants, conclut le soldat des forces démocratiques syriennes.
Aurélien Colli, l'envoyé spécial de France Culture en Syrie. Il est 9h07 sur France Culture, c'est la suite du journal avec cette question. Et si les femmes étaient le fer de lance des contestations en France? Qu'elles soient gilets jaunes, assistantes maternelles, militantes écologistes ou féministes, les femmes étaient en tête du cortège parisien de l'acte 17 des gilets jaunes hier et faisaient cause commune à Paris. C'est un reportage de Manon Clavry.
D'habitude, elles ne font pas beaucoup de bruit. Mais là, les assistantes maternelles sont en colère. La réforme de l'assurance chômage menace leur aide au retour à l'emploi. Marie-Noël est à la retraite, mais elle est venue soutenir ses anciennes collègues.
Je suis gilet jaune en temps normal, donc je suis un petit peu avec les gilets jaunes et avec les collègues assistantes maternelles. On combat et on combat tous ensemble. Ça peut être gilet jaune, gilet rose, tous les gilets ensemble. Voilà, on combat tous ensemble.
En tête de cortège, les gilets jaunes se mêlent aux roses.
Je comprends parfaitement leurs inquiétudes. Moi, je porte un gilet jaune. Je viens et parce que je suis gilet jaune, et parce que les femmes gilets jaunes ont appelé, et parce que les organisations féministes ont appelé aujourd'hui.
Pour les féministes comme Delphine Collin, foulard violet autour du cou, le combat des assistantes maternelles est celui de toutes les femmes. Logique donc de marcher à leur côté.
Moi, je travaille dans la fonction publique. On a un quart de salaire en moins. On a des professions qui sont très fortement féminisées et qui sont dévalorisées. Par exemple, les assistantes dans les maternelles, toute la filière administrative, toute la filière sociale, dans la santé, énormément d'aides-soignantes en fait, sont dévalorisées. Il y a aussi énormément de précarité. Et on sait que chez nous, par exemple, les primes, elles sont toujours beaucoup plus fortes pour les hommes que pour les femmes.
Certaines comptent même continuer à faire grève tous les jours à partir de 15h40, heure à laquelle les femmes ne sont plus payées si l'on prend en compte les inégalités salariales.
Un reportage de Manon Clavry pour France Culture. En Corse, c'est une marche blanche en hommage à Julie Douib qui a eu lieu hier à l'île Rousse. Plusieurs centaines de personnes ont participé à ce rassemblement pour saluer la mémoire de cette mère de famille de 35 ans tuée par balle dimanche dernier par son ex-conjoint. Lucien Douib est le père de la jeune femme assassinée. Il est déterminé à se battre pour que le meurtre de sa fille provoque un éveil des consciences sur les féminicides.
La tristesse, c'est sûr. La colère, je l'ai en moi. La colère, c'est pas moi qui va l'apaiser. C'est pas ce qui va se passer autour. C'est j'espère que la justice fera son travail jusqu'au bout et que je puisse moi me libérer de ce poids au moment où il y aura verdict et que la justice aura traité cette affaire clairement. Voilà. Mon premier combat, c'est mes petits-enfants, de leur donner enfin la vie qu'ils n'ont pas eue et qu'on n'oublie jamais que c'était une mère, une femme. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça n'arrive plus, que ça n'arrive plus à personne. C'est pas normal qu'on parle que aujourd'hui de Julie, mais qu'on parle pas des 30 premières femmes qui sont mortes comme ça. On aurait dû en parler la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 30e. On aurait dû bouger avant que ça n'arrive. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que la mort de ma fille fera bouger, qu'on n'entendra pas ce genre de femme battue et qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, on n'en entende plus parler parce qu'il y a un autre événement. Non, c'est un combat de tous les jours. C'est mon combat, il est là, voilà, c'est tout.
Lucien Douib au micro de Roland Frias. De la pluie sur une diagonale qui va du nord-est jusqu'au sud-ouest, du soleil au bord de la Méditerranée, alternance de soleil et d'éclaircies sur la Normandie et la Bretagne. Température comprise ce matin entre 10 et 17 degrés avec 13 degrés à Paris, jusqu'à 17 degrés ce sera à Narbonne.